RMC.
J'ai eu une vision il y a quelques temps, mais je pense que cette année va être la bonne année.
Where is the casque for John?
Quand une porte est entrouverte, il reste à nous de l'entrouvrir grande ouverte.
After Lyon,
Thibaut Giangrande.
Salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue dans l'After Lyon, le podcast qui débat de l'actu de l'OL tous les mardis, dispo sur toutes vos plateformes habituelles. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucun épisode et aller réécouter les derniers. L'équipe cette semaine, c'est le duo classique du podcast After Lyon, la paire la plus efficace, sorte de binôme Ponceau-Chéroux. Roland Courbis et Edouard G sont là, salut les gars.
Salut Thibaut.
Salut les amis. Coach. Et ce soir, il y a, sur cet épisode, il y a une espèce de super agent qui est là. Je ne sais pas s'il y a des super agents en ce moment à Lyon. Alors, en tout cas, c'est quelqu'un qui connaît très bien l'OL, qui était très présent au club pendant la grande époque. Peut-être l'agent numéro 1 à l'époque où l'OL marchait sur la France. Frédéric Guéra est dans le podcast à Lyon.
Je peux confirmer qu'il connaît très bien son métier, ça c'est sûr.
Salut Fred.
Bonjour à tous et merci Roland.
Et merci d'être là, en tout cas Frédéric. On n'avait pas vu ça à Lyon depuis Domenech, c'est dire si la crise est grave. Plus de 30 ans que l'OL n'avait pas perdu 4 matchs de suite. Et plus que la défaite contre Lens dimanche, c'est la manière qui est terrible. Les Lyonnais ont pris une leçon de football. Depuis, Peter Bosz apparaît encore plus fragilisé. Et surtout, les anciens commencent à parler, comme Juninho, Bruno Genesio, Sidney Govou. Alors l'OL a-t-il tout faux? Y a-t-il encore une chance de sauver la saison? C'est notre débat de la semaine. Et commençons, Edouard, en direct de Lyon, par la question que tout le monde se pose. Alors depuis plusieurs semaines, encore plus depuis dimanche, est-ce que Peter Bosz peut se faire virer cette semaine?
Non, parce qu'il y a 5 jours entre le match de dimanche face à Lens et la réception de Toulouse vendredi au Groupama Stadium, donc c'est un petit peu trop court. Derrière, il y a un écart de 9 jours entre les deux matchs qui suivent, c'est-à-dire le TFC puis Rennes. Donc là, on peut imaginer que si vendredi soir, ça tourne encore mal, est-ce que un entraîneur qui a déjà fait le pire résultat depuis 25 ans en termes de classement l'année dernière, 8e, qui a enlevé la poussière de la stat que tu signalais des années 90, des 4 défaites de suite, peut encore survivre? On le saura bien évidemment vendredi soir, mais clairement la petite musique dit que ça va être très très dur pour lui de renverser la table et d'être encore là au-delà de la fameuse trêve originale cette année de la Coupe du Monde du mois de novembre après le dernier match face à Nice.
Roland, il va rester encore longtemps Peter Bosz?
Disons que je pense que le match à venir c'est tout simplement un match où ça ne sera insupportable d'envisager une 5e défaite, donc il n'y a pas à savoir s'il restera pas. Ça sera tout simplement impossible qu'il reste avec en plus 9 jours après. C'est, disons, dans le stade que ça se réglera avec tout le monde qui en a ras-le-bol. Et on sait très bien que c'est pas une nouveauté, que l'entraîneur, quand ça va pas, c'est lui qui morfle en premier.
Vendredi, contre le promu toulousain.
Qui plus est.
Au Groupama Stadium, qui plus est, effectivement. Juste avant.
Alors, en sachant que, Thibaut, jusqu'à présent, il n'y a aucune banderole dans le stade aperçue par rapport à Peter Bosz. Aucun chant hostile. Alors, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, ça s'amplifie. La chute telle top 50, une époque, c'est le gros gadin. Mais au niveau du stade, il n'y a jamais eu de banderole, jamais eu de sifflet, notamment après le match de Paris. Il y a une grosse mensuétude autour d'un coach. Et moi, je me pose juste une question à propos de ce coach. Est-ce que lui, à 58 ans, au fond de lui, il doit se dire, mais que fais-je encore là? Pourquoi je ne suis pas viré? Est-ce que au fond de lui, il doit quand même se dire que c'est quand même anormal la situation dans laquelle il est
Si même lui, on a conscience. Tu es en train de nous dire que il se pose la question pourquoi il est encore là, ou il se pose la question en disant j'aimerais bien prendre un coup de pied au cul parce que vraiment, en général, bol.
Non, c'est moi qui je me dis au fond de lui, et toi tu le connais bien coach, il a tellement baroudé dans le football, à 58 ans, il doit je pense se dire quelque part, c'est presque un miracle d'être encore là, mais c'est de l'interprétation, c'est pas des infos. C'est peut-être ça qui fait qu'il est blindé, par rapport à tout ce qui se passe, parce que hier, quand ils sont revenus de Lens, la petite nuit, 5 heures, c'est vrai, comme on me dit de l'intérieur, il y a eu un petit peu plus de café quand ils sont arrivés pour le décrassage, mais on est reparti au travail dans l'après-midi, et aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, ils sont en repos, parce que c'est la tradition, 3 jours avant un match, les joueurs sont au repos.
Juste avant de donner la parole à Frédéric Guerra, un dernier événement qui peut-être aussi permet d'expliquer cette situation et cette mansuétude autour de Peter Bosz. Edouard, c'est la vente qui devait être finalisée le 30 septembre, finalement reportée au 21 octobre. On imagine que virer l'entraîneur au moment où on finalise la vente, ça fait mauvais genre peut-être.
Oui, on est plus dans de l'inconscient, peut-être au niveau des dirigeants, mais c'est vrai que c'est difficile pour l'instant. On est comme si quand on vend une maison, on est dans un compromis de vente. Est-ce qu'on l'argent qu'on va toucher, est-ce que on va déjà le dépenser avant vraiment de l'avoir sur les comptes? Voilà, donc c'est vrai que ça participe un petit peu de ça. Et puis l'homme à la baguette de tout ça, l'homme à la baguette de ces choses financières, c'est Jean-Michel Aulas. Donc pendant qu'il a la tête à tous ces soucis, on va dire, toutes ces problématiques financières, avec notamment le décalage horaire avec les États-Unis, donc ça le fait travailler tard dans la nuit, il n'est pas au fait de l'aspect sportif. Ça peut aussi participer du flou actuel.
Après, a priori, normalement, on est plus censé être sur la période notaire, signature définitive, que compromis de vente. Hein. Le compromis,
oui. Fois devant le notaire, au dernier moment, je suis bien placé pour le savoir, ouais. Ça peut jouer des tours.
Frédéric Guerra est là, donc agent de joueurs. Quelques noms des joueurs que tu avais à l'époque du Grand OL, Frédéric, Sidney Govou, Grenier, Diarra, Ben Arfa, Gonalon, est-ce qu'on en rajoute encore quelques-uns?
Oui, Boumsong, Umtiti. Oui, non, mais il y en a eu beaucoup, effectivement. Ouais. Effectivement, c'est.
T'en as plus aujourd'hui?
J'en ai chez des jeunes.
D'accord.
Au niveau des jeunes, c'est aujourd'hui, c'est compliqué que ces jeunes apparaissent tout en haut de l'affiche. Le centre de formation, là où il est placé, c'est tout est compliqué à l'Olympique Lyonnais. Tout.
Et toi, Frédéric, t'as connu l'OL au sommet du foot français, de par les joueurs dont tu t'occupais, qui étaient majoritaires quasiment au club. Comment t'expliques que Lyon soit arrivé là aujourd'hui? Est-ce que d'ailleurs t'as une explication?
Une explication, je suis un peu comme tout le monde, c'est-à-dire que je regarde les matchs. Les matchs n'arrivent à satisfaire personne, enfin au moins ceux qui aiment le football. Après, il y a peut-être des supporters qui aiment ce qui se passe, mais enfin, sur le terrain, c'est plutôt lamentable. Ce qui est lamentable depuis un an et demi, c'est l'état d'esprit de ce groupe. Il n'y a pas de groupe, et je le dis haut et fort. Et quand Peter Bosz, au bout d'un an et demi, n'est toujours pas arrivé à faire un groupe, et que je me souviens d'une conférence de presse qu'il fait l'année dernière, à l'avant-dernière journée, et il dit oui, ce qu'on a fait, c'est pas bien, mais il faut continuer à travailler, on est à l'avant-dernière journée, tu vas rien changer en disant on va encore travailler. Non, je pense qu'il fait plus l'unanimité au sein même du groupe, sportivement, enfin, tout du moins des échos que j'ai. Et ils se plaignent beaucoup de très peu travailler. Et en plus, il n'y a pas de groupe, il n'y a pas d'osmose. Donc, un groupe peut battre 11 joueurs, mais s'ils ne sont pas liés, c'est compliqué.
Donc, toi, tu fais un petit package joueur plus coach,
Ouais. Toute façon, quand on regarde les statistiques, pour être sur le podium, en moyenne, il faut perdre 9 matchs par an. Là ils sont à 4, on n'est pas à un tiers du championnat, enfin c'est même pas au quart, donc on a compris que 4 x 4 égale 16 et qu'ils seront entre 15 et 17 défaites en fin de saison. Et que le podium, il est déjà parti et loin, quoi.
C'est ce que dit d'ailleurs Sidney Govou dans une interview au journal L'Équipe. Edouard, pour rebondir sur ce que dit Frédéric Guerra, c'est vrai que le physique à Lyon, c'est un sujet. D'ailleurs, on avait fait un podcast After Lyon il y a quelques semaines sur la fameuse préparation intégrée qui ne fait pas l'unanimité. C'est vrai que c'est quelque chose qui revient beaucoup et de plus en plus quand les résultats ne sont pas là. Mais voilà, c'est une méthode qui n'a pas l'air de passer, hein, Edouard.
Oui, mais au-delà de ça, c'est la petitesse des séances avec des choses tactiques qui sont pas forcément faites sur des grands espaces, peut-être pas forcément avec assez d'intensité. Voilà, il y a beaucoup de choses qui reviennent comme ça. Et moi, il y a quelqu'un qui me disait, c'est un petit peu comme si quand on te dit de préparer le marathon, on te dit il faut absolument faire du fractionné. Donc c'est ce qu'on entend en conférence de presse. Sauf que dans les entraînements, on n'en fait pas du fractionné. Donc il y a peut-être un décalage entre ce qui se dit en conférence de presse, il faut faire ceci, il faut faire ceci, il faut faire cela, et puis ce qui est fait vraiment à l'entraînement. Alors ça, c'est une petite musique que j'ai entendue l'année dernière, et c'est toujours pareil, si on passe 20 coups de fil, on va en avoir 10 qui vont être pour, 10 qui vont être contre. Donc c'est un petit peu difficile de se faire une idée, mais d'une manière générale, on sent bien que cet aspect manque de travail tactique, manque de travail d'intensité, etc., c'est quelque chose qui revient. Et quand on voit le match de dimanche avec un déficit de puissance entre les deux équipes, ceci peut-être aussi nourrir ça. Et quand on entend aussi un Anthony Lopez ou un Maxence Cacré qui te disent qu'il faut peut-être plus travailler, on peut aussi lire à travers ces phrases-là ce genre de problème.
Ben là, c'est au coach que j'ai envie de demander, le nôtre, coach Courbis, sur cet aspect préparation de l'Olympique Lyonnais. Edouard en parle, le fameux repos à J-3. C'est vrai qu'on a l'impression que les Lyonnais ont besoin de travailler, leur classement, leurs prestations, voilà, il faut bosser. Est-ce qu'on peut réussir finalement en ayant autant de repos, en bossant pas autant physiquement? C'est une possibilité? Il fait pas fausse route déjà de base, Peter Boss?
Si tu veux, je vais pas me servir de proverbe connu, mais bon, si j'ai un petit conseil à donner, mettons pas la charrue avant les bœufs. Là, on essaie de trouver des solutions en faisant un constat. Et on essaie surtout de trouver comment et pourquoi on en est arrivé là. Donc moi, je fais un constat, et si je peux me permettre de ne pas faire le professeur, je trouve une anomalie dans ce qui se passe à Lyon. Ce n'est pas en ce qui concerne le centre de formation. Ce centre de formation est très compétent, avec obligatoirement des gens compétents à la tête, puisque les bons joueurs, déjà, on les recrute, on les forme bien, mais je trouve qu'on a négligé sur ces dernières années ce que j'appelle, moi, la formation. Ce n'est plus la formation qui m'intéresse. C'est avant d'en arriver à être très très bon en première division et être très très bon, c'est à être capable de faire partie d'une équipe qui va terminer dans les trois premiers, au pire à la quatrième place. Et bien, pour moi, cet apprentissage, il y a quand même, appelons ça une lacune ou un oubli ou une anomalie, où tu prends les trois et tu les mets dans la même phrase, c'est que un garçon comme Cherki, je vais vous donner un exemple, un garçon comme Cherki, qui a toutes les qualités à 16-17 ans pour faire un futur très bon joueur, voire même très très bon joueur, ben je note une anomalie. Qu'est-ce qu'il fout 24 heures sur 24 à Lyon? Mais moi, un Cherki à 17-18 ans, je supplie Sochaux de le récupérer et d'être un des meilleurs joueurs de Sochaux, parce que la marge de progression de Cherki, on ne la connaît pas. Mais ce qu'on va faire de Cherki dernièrement, vous me dites si je me suis trompé, c'est pas grave, je me vexerai pas. Dernièrement, il paraît que Cherki a demandé plus de temps de jeu. Donc, ben, comme il a demandé plus de temps de jeu, après réflexion, quand on est après trois défaites, on va dire, ben, d'où qu'on devait, hein, on va quand même le mettre titulaire du côté de Lens, et puis on verra ce qu'il est capable de faire. Je dis non. Même chose pour Barcola, même chose pour Loukeba, qui pour moi est un arrière central et un futur très très bon, mais qu'il est passé de 18 à 19 ans, une année du côté d'un club comme Sochaux, comme Clermont, quand ils étaient, je regarde les clubs de la région, mais ça me paraît être indispensable, voir que Loukeba, à son âge, avec toutes les qualités qu'il a, c'est lui, donc si j'ai bien compris, le chef et le capitaine entre guillemets, avec Mal Augusto, qui a pas mal de qualités, mais qui a des progrès à faire sur le plan défensif. Donc si j'ai bien compris, Barcola, Cherki, Loukeba, Mal Augusto, Aouar, qui est beaucoup plus âgé, pareil pour lui. une année dans l'apprentissage ailleurs que Lyon, au lieu d'attendre dans un club aussi important que Lyon, de pouvoir faire 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes et tout ça. Va faire un an à Sochaux et puis tu verras qu'est-ce qui se passe.
Puisqu'on est sur les joueurs et que coach ouvre fort le débat, Frédéric Guéra, sur...
C'est beau ce que dit Roland sur le plan, ça fonctionne. Dès qu'on parle à ces joueurs d'être prêtés... J'ai entendu Sochaux, mais Roland, mais tu prends une volée de bois vert par le joueur, par l'environnement, par les parents, et puis le club va aussi, malgré tout, t'aider à te mettre les bâtons dans les roues, parce qu'ils vont commencer à demander des locations impossibles à payer pour des clubs comme ça. Donc, bien sûr que sur le plan, c'est l'idéal. Tant de jeu, c'est l'idéal. Et n'importe où d'ailleurs,
c'est pas seulement l'idéal, si je peux me permettre, c'est indispensable. Et l'histoire du l'histoire du salaire, quand par exemple un club comme Sochaux, il faut regarder que bon allez, on soit tous d'accord, Sochaux récupère, c'est payé à 80% par Lyon, et il paye à Lyon l'apprentissage gratuit d'un club comme Sochaux, avec en plus le très bon entraîneur qui a régulièrement du côté de Sochaux.
Frédéric Guéra.
Amine Gouiri n'a pas voulu aller à Nîmes, par exemple, en prêt.
Justement, on était sur les joueurs et sur le niveau de ces joueurs, finalement. Est-ce que aussi, depuis quelques mois, quelques années peut-être, on ne les voit pas plus beaux qu'ils ne sont c'est vrai que coach souligne qu'ils ont un gros potentiel, ils sont bons peut-être pour leur âge, mais est-ce qu'ils sont bons pour la Ligue 1? Est-ce que, avec ces joueurs-là, Lyon doit nécessairement faire podium? Ou est-ce qu'il y a beaucoup de clubs qui ont un 11 type meilleur que les Lyonnais, Frédéric?
Les joueurs sont bons. J'ai trouvé Sidney un peu dur quand il dit que aucun d'entre eux, mis à part le Paris Saint-Germain, bien évidemment, mais que aucun d'entre eux ne pourrait intéresser des clubs comme Rennes. Il faut juste aussi comprendre que le championnat de France, au niveau de, est monté d'un niveau. Pour moi, c'est devenu un championnat très difficile. Mais non, mais ces joueurs ne jouent pas ensemble. C'est-à-dire qu'ils Le foot a toujours été un esprit de camaraderie, et je suis désolé, plus je regarde l'Olympique Lyonnais, et plus je vois des joueurs tout seuls dans leur coin faire des choses. Je vois par exemple des passes en profondeur. Il y a des mecs qui ont des qualités énormes. Au lieu de la mettre dans le mouvement en direction du point de pénalty, ils vont aller chercher la direction du corner exprès pour que le gars qui va récupérer le ballon lui remettre et que ce soit lui qui marque, par exemple. Je vois des tas de choses, des comportements d'égoïstes, et je n'ai pas connu ça à l'Olympique Lyonnais avant.
Et comment ça se fait, Frédéric? Ça veut dire quoi? Que c'est au-dessus, finalement, qu'ils sont plus gérés comme il faut? Est-ce que tu as une explication à ce problème d'état d'esprit des joueurs, si j'entends bien?
Ouais, peut-être que c'est générationnel, mais j'y crois pas. En fait, il y avait quand même, et Sidney le dit, mais parce qu'on s'était vu la semaine dernière, on avait parlé ensemble de l'Olympique Lyonnais avec Sidney, et je lui avais dit que Gérard Rouillet avait une importance capitale dans le club, même si, et lui et moi avons eu par moment des difficultés avec Gérard. Il se trouve qu'il était premièrement parfait connaisseur du football, et puis il articulait tout ça de main de maître. Ça manque énormément, oui. Là, ça manque énormément.
Une fois que ce constat est fait, et il est difficile mais implacable quand on regarde le classement, 7e, les résultats de l'Olympique Lyonnais, on a compris la difficulté de se séparer de Bosque. On sait que changer d'entraîneur, de toute manière, surtout comme ça entre deux matchs, il n'y a pas c'est pas une solution miracle. Mais est-ce que vous voyez quand même quelque chose à faire dans ce club pour sauver la saison? Alors le mot est peut-être un peu fort, mais parti comme c'est, ça va finir en catastrophe. Est-ce qu'il existe des solutions à votre avis? Si oui, lesquelles, pour que la saison ne soit pas encore une saison ratée déjà, quoi?
Déjà, je peux vous dire que le staff croit encore quand même un certain nombre de choses. Faut pas penser qu'ils ne font plus rien. Après, faut quand même aussi, c'est pas des excuses, mais c'est des explications et des choses quand même à donner. Vous avez les ennuis. Un ancien président disait plutôt les emmerdes. Quand ça commence, ça vole en escadrille. Là, vous avez quand même une équipe dimanche qui était privée de Dembélé, de Tolisso, de Gusteau, de Lukeba et de Romain Fèvre. Donc ça vous fait quand même 5 joueurs dans la rotation qui sont quand même importants.
Oui, mais on peut pas se cacher derrière ça, Edouard, quand même.
Non, non, mais je ne cache pas. Je n'ai pas dit que c'était une excuse. J'ai dit simplement que c'était une explication en termes de puissance, notamment par rapport à Dembélé, quand on voit l'entrée, par exemple, de Bradley Barcola. Okay.
Alors,
Frédéric, c'est pas un entraîneur là, un homme qui va pouvoir faire changer et pas. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de solution et encore pas de solution interne. Voilà.
Frédéric Guérard.
Une fois qu'on aura rajouté ces 5 joueurs à la place de 5 autres, le constat que je ferai, c'est qu'on n'aura toujours rien changé. C'est que ces 5-là ne sont pas indispensables, pas plus que les 5 qui étaient présents à leur place sur le terrain. C'est ce que je veux te dire. C'est-à-dire que je n'arrive pas à... On avait à une époque, quand Lyon était plusieurs fois champion de France, des jeunes de 20 ans, 21 ans, et Sidney Govou est le parfait exemple, des mecs qui étaient capables de mettre le bleu de travail et de travailler, de tirer tout le monde quand tout le monde baissait. C'était pas, et c'était propre à beaucoup de jeunes de l'époque.
Mais les amis,
c'est un problème de caractère, il se noie, quoi.
Si je peux me permettre, Roland, ces 5 joueurs, l'absence de ces 5 joueurs, elle est importante, ok. Il y a un effectif du côté de Lyon, un effectif minimum d'une vingtaine de joueurs, qui doit permettre, quel que soit le coach, s'il y a 5 absents, eh bien on sait très bien que le niveau va peut-être baisser, mais il n'est pas impossible non plus que la rentrée de ces 5 joueurs qui remplacent des joueurs, que s'ils n'avaient pas été indisponibles, ça ne leur aurait pas permis d'avoir la chance de pouvoir participer à ce match à Lens, qui est quand même un match plaisant contre une équipe avec un public extraordinaire. Mais il faudrait qu'avec ces cinq rentrées de joueurs qui vont faire le maximum pour justement saisir leur chance, cette fameuse expression, il faut qu'ils saisissent leur chance, il faut qu'ils marquent des points. Mais vous avez vu le match comme moi. Le nombre d'occasions qu'a pu avoir Lyon, ce match-là, il est pas catastrophique, il est pire que catastrophique. Que Lyon, avec l'équipe, il y a les 5 absents, ok, avec l'équipe qu'il y a sur le terrain, être aussi peu dangereux pendant 93 minutes, tu veux le faire exprès, tu n'y arrives pas.
Lyon qui n'a pas cadré une seule frappe pour la première fois depuis plus de 3 ans, la dernière fois, c'était le dernier match de Silvinho, hein, c'est ça, Edouard, je crois.
L'un des derniers matchs de Silvinho contre le PSG. Alors, ce qui est d'autant plus frappant, c'est que individuellement, il y a aucune individualité quelque part de Lens à part Seko Fofana que l'OL pourrait recruter pour se renforcer. Lyon, en termes d'unité de joueurs pris un par un, les joueurs lyonnais sont meilleurs.
Alors, justement,
je rejoins totalement Fred. En termes de collectif, il n'y a pas de collectif. Le collectif est meilleur côté Lensois, les individualités sont meilleures du côté de Lyon.
Justement, ouvrons un peu le débat. Ces joueurs, ils ont été formés pour certains, recrutés pour d'autres. Il y a peut-être un troisième problème. Il y a le coach hockey, les joueurs hockey, mais qui les a mis là? Et surtout, est-ce que les gens qui sont au club en ce moment, ils sont capables de modifier ça, d'aller vendre ou prêter ceux qui n'ont pas leur place à l'OL et d'aller recruter ce qu'il faut, les joueurs manquants dont parle Fred, dont parle Edouard?
La question, elle se pose, je suppose, à nous trois.
Absolument.
Moi, je vais prendre la parole.
Bah, en fait, concrètement, la question est, Fred, tu vas répondre
la
première.
La charge de la.
Ouais, les dirigeants, quoi.
La charge
quoi.
De travail voilà. Aujourd'hui.
Je m'interroge sur les dirigeants.
Bah, voilà, mais voilà. Bah, la charge de travail que Vincent Ponceau a au niveau de l'Olympique Lyonnais est énormissime. Il participe à énormément de commissions à la Ligue, il participe au conseil d'administration, il participe à la vente de l'Olympique Lyonnais, il est conseiller du président, il participe aux réunions qui concernent les clubs européens, enfin bref, il a une charge de travail énorme et je pense que comme tout être humain, il y a un moment donné, on atteint forcément ses limites. Et je pense que sportivement, football, c'est un garçon qui est capable d'acheter, de mettre des millions, de trouver les sommes qui correspondent à X ou Y de tel joueur, de faire des montages financiers. Mais par contre, je pense que lui confier le football, quelque part, non. Il y a des gens qui sont faits pour ça. Et je pense que Vincent, là, atteint peut-être un niveau qui n'est pas le sien, c'est pas son domaine, ça n'est pas son domaine, il est performant ailleurs, mais c'est pas son domaine. Chéroux, bon bah ma foi, c'est peut-être la première fois qu'il devient directeur sportif, et on en reviendra toujours à la même chose, c'est acheter un bon joueur, bah, je pense que Chéroux est capable de juger, d'analyser, de voir ce qu'est un bon joueur, Vincent est capable de mettre le chèque qui va avec, ça ils savent faire. Maintenant, il y a l'autre partie, c'est-à-dire que se retrouver avec 30 et X joueurs, plus les jeunes, dans un vestiaire, alors qu'on n'a que 38 journées de championnat à faire, et peut-être une Coupe de France dont on ne sait jamais où ça commence et où ça s'arrête, c'est forcément compliqué pour faire vivre un groupe quand vous avez 3-11 dans les vestiaires qui peuvent commencer un match. Enfin, le nombre de joueurs, c'est ça. Donc, là, ça complique parce que ça peut pas créer l'amitié. Ce qui crée l'amitié, c'est 11 gars qui démarrent leur match. C'est ce qui se passait à Lyon quand ils étaient champions de France. C'est-à-dire que ils étaient combien? Ils étaient peut-être 15 à être concernés, 16, 17 peut-être sur une saison complète avec Champions League et tout ce qui va avec. Donc, et il y avait la Coupe de la Ligue, donc ils étaient peut-être que 17 joueurs concernés à jouer tout le temps.
La Coupe de la Ligue c'était assez rapidement fini à l'époque pour l'OL. Le problème dans le recrutement dans l'équipe de dimanche, par exemple, c'est de se retrouver avec un arrière-droit qui est gaucher parce qu'on n'a pas de doublure à Malogusto. Où la doublure, elle a 17 ans, c'est le Kamundi. Donc là, on revient bien où la responsabilité, c'est là la responsabilité d'en haut. Ouais. Comme le fait que le seul défenseur central que souhaite Peter Bosz, en l'occurrence, c'est Thiago Mendes. Ouais. Donc il n'y a pas de vrai grand défenseur central. Donc la réflexion en haut lieu, là, c'est là où ça bug. Je n'ai pas de réponse pour pourquoi on n'a pas une doublure à Malogusto sur le côté gauche.
Roland Courbet, mais ça, si tu veux, il y a pu y avoir un oubli, il peut arriver, et puis bon, un mercato, ça se fait pas malheureusement toujours à 100%, comme on peut le voir. Tu te rends compte qu'un club comme le Paris Saint-Germain, mais on voit très bien, et ça sera réparé au mois de décembre, au mois de janvier, qu'il manque un arrière central. Donc si tu veux qu'il puisse y avoir... Ah ben, la doublure de Malogusto, mais la doublure de Malogusto, au lieu qu'il y ait une doublure, Malogusto, il vaut mieux qu'il y ait, si tu veux, deux joueurs capables de se partager le boulot dans un rôle qui est un des rôles les plus pénibles dans l'évolution du football. Et après, voir à côté de Loukeba, ben, un garçon qui fait de son mieux, mais qui n'est pas un arrière central, sauf si on peut appeler ça un dépannage, mais quand on est Lyon... On n'a pas un des deux arrières centraux, puisqu'on ne joue qu'avec deux arrières centraux, un des deux arrières centraux qui sert de dépannage en faisant de son mieux. On a un garçon de 20-21 ans comme Loukeba, et bien à côté de ça, il y a un garçon expérimenté, un des bons arrières centraux de notre championnat, qui joue à côté de Loukeba. Donc j'ai rien inventé, et je suis persuadé que Peter Bosz voit ces choses de la même façon, mais il y a des fois des points d'interrogation qu'on n'a pas. Et j'insiste sur le joueur. Tu m'as répondu avec des exemples comme le joueur n'a pas voulu. Mais ça doit faire partie des habitudes d'un apprentissage. On ne mélange pas préformation, formation et apprentissage. L'apprentissage, quand on s'appelle Cherki et qu'on pense passer de 17 à 18 ans titulaire obligatoirement de l'Olympique de Lyonnais, ça part de bonnes intentions, mais je préférerais lui faire comprendre que dans son intérêt et dans l'intérêt de son club, le petit passage du côté de Sochaux ou de Clermont, c'est indispensable.
Ouais. En tout cas, tu l'aurais bien vu.
C'est pour ça qu'il a été transféré derrière, et ça, c'était un choix de Juninho. Je parle pour Guiri, il a refusé Nîmes, donc c'est un transfert derrière, en fait. Voilà. Ça fait partie des explications.
Prochaine tentative de gagner un match ou de ne pas le perdre pour Peter Bosz et l'Olympique Lyonnais. Ce sera vendredi à 21h au Groupama Stadium face au promu toulousain. Croisons les doigts.
C'est sûr que c'est pas un match amusant à préparer pour un coach et pour des joueurs.
Mais là d'ailleurs, au moment où on enregistre ce podcast, nous sommes mardi, on est J-3, donc c'est repos à Lyon. Tranquille, les gars.
Ouais. Méthode anglo-saxonne, méthode boss. Voilà.
Merci beaucoup Frédéric Guérin d'être venu nous éclairer aujourd'hui. Merci Frédéric. Salut Frédéric.
Bonne journée à vous tous. Et bonne soirée.
À très bientôt. Fred. Merci ciao, encore.
Ciao. À bientôt.
Coach, salut. Edouard, merci beaucoup les gars.
Salut, à la prochaine.
Merci Jérôme Thomas, merci. Surtout à vous d'être là, fidèle au rendez-vous. N'oubliez pas, hein, on s'abonne et on se retrouve la semaine prochaine, mardi prochain, pour un nouveau podcast After Lyon. Ciao.
RMC After Lyon.